un coup d'avance sur le danger. Malgré la menace que faisait planer sur nous le livre de Pianelli, Maxime, Fanny et moi avons continué à vivre comme si elle n'existait pas. Nous avions passé l'âge de vivre dans la peur, passé l'âge de vouloir convaincre ou nous justifier. Nous nous étions promis une seule chose, quoi qu'il arrive désormais, nous ferions face ensemble. Au jour le jour, nous profitions les uns des autres en guettant une tempête dont je gardais le secret espoir qu'elle ne déferlerait jamais. Quelque chose avait changé en moi et m'avait donné une nouvelle assurance. L'inquiétude qui me bouffait à petit feu avait disparu. Les nouvelles racines que je m'étais découvertes faisaient de moi un autre homme. J'avais des regrets, bien sûr, celui de ne m'être réconcilié avec ma mère qu'à travers sa mort, celui d'avoir attendu que Richard se retrouve en prison pour me sentir proche de lui. Le regret aussi de n'avoir jamais discuté avec Francis en sachant qui il était vraiment. Les itinéraires de mes trois parents me donnaient à réfléchir. Leur parcours était singulier, traversé par la souffrance, les emballements, les contradictions. Ils avaient parfois manqué de courage, mais parfois fait preuve d'un sens du sacrifice qui forçait le respect. Ils avaient vécu, ils avaient aimé, ils avaient tué. Ils s'étaient quelquefois perdus dans leur passion, mais ils avaient sans doute essayé de faire de leur mieux. De leur mieux pour ne pas avoir un destin ordinaire. De leur mieux pour concilier aventure personnelle et sens des responsabilités. De leur mieux aussi pour décliner le mot « famille » selon une grammaire qui leur était propre. Être issu de cette lignée me forçait non pas à les imiter, mais à défendre cet héritage et à en accepter certaines leçons. Il était vain de nier la complexité des sentiments et des êtres humains. Nos vies étaient multiples, souvent indéchiffrables, minées par des aspirations contraires. Nos vies étaient fragiles, à la fois précieuses et insignifiantes, baignant tantôt dans les eaux glacées de la solitude, tantôt dans le filet tiède d'une fontaine de jouvence. Nos vies surtout n'étaient jamais vraiment sous contrôle. Un rien pouvait les faire basculer. Une parole murmurée, un regard qui pétille, un sourire qui s'attarde pouvait nous élever ou nous précipiter dans le néant. Et malgré cette incertitude, nous n'avions d'autre choix que de faire semblant de maîtriser ce chaos, en espérant que les inflexions de nos cœurs sauraient trouver leur place dans les desseins secrets de la Providence. Le soir du 14 juillet, pour fêter la sortie de l'hôpital de Maxime, nous nous étions tous réunis dans la maison de mes parents. Olivier, Maxime, leur petite fille, Fanny et même Pauline Delatour, qui s'était révélée être une fille intelligente et drôle avec laquelle je m'étais réconcilié. J'avais fait griller des steaks au barbecue et préparé des hot dogs pour faire plaisir aux enfants. On avait débouché une bouteille de Nuit Saint-Georges, puis on s'était installé sur la terrasse pour regarder le feu d'artifice tiré depuis la baie d'Antibes. Le spectacle venait de débuter lorsque retentit le carillon de l'entrée. J'abandonnai mes invités et j'allumai l'éclairage extérieur avant de descendre l'allée jusqu'au portail. Stéphane Pianelli m'attendait derrière la grille. Il n'avait pas l'air très frais, les cheveux longs, la barbe fournie, les yeux cernés et injectés de sang. Qu'est-ce que tu veux, Stéphane ?
Salut, Thomas.
Son haleine puait l'alcool.
Tu me laisses entrer ?
Demanda-t-il en agrippant les barreaux de la grille en fer forgé. Cette grille que je n'ouvrirais pas symbolisait la barrière qui existerait désormais toujours entre nous. Pianelli était un traître. Jamais il ne serait des nôtres.
Va te faire foutre, Stéphane.
« J'ai une bonne nouvelle pour toi, l'artiste. Je vais pas te faire de concurrence en publiant mon livre. »
Il sortit de sa poche une feuille pliée en quatre qu'il me tendit à travers les barreaux.
« Ta mère et Francis étaient vraiment deux beaux enfoirés !»
lança le journaliste.
« Une chance que j'ai retrouvé cet article avant que mon livre ne sorte. J'aurais eu l'air trop con.
Je dépliai le papier, alors que les pétards et les fusées des feux d'artifice éclataient dans le ciel. C'était la photocopie d'un vieil article de Nice Matin, daté du 28 décembre 1997, 5 ans après le drame. Vandalisme et dégradation au lycée Saint-Exupéry. L'établissement de la technopole de Sofia Antipolis a été la cible d'actes de vandalisme dans la nuit de Noël. Les dégradations les plus importantes ont eu lieu dans le gymnase du lycée international. C'est le matin du 25 décembre que l'étendue des dégâts a été découverte par la directrice des classes préparatoires, Madame Annabelle de Galais. De nombreux tags et inscriptions injurieuses s'étalaient sur les murs de la salle de sport. Le ou les vandales ont également brisé plusieurs vitres, vidé les extincteurs et dégradé les portes des vestiaires. Pour la directrice qui a déposé plainte, il ne fait aucun doute que ces individus sont extérieurs à l'internat. La gendarmerie a ouvert une enquête et a procédé aux vérifications d'usage. En attendant la suite des investigations, la direction de la cité scolaire a d'ores et déjà entrepris le nettoyage et les travaux nécessaires pour que le gymnase soit remis en l'état dès la rentrée des élèves le 5 janvier prochain. Claude Angevin. L'article était accompagné de 2 photos. Sur la première, on pouvait constater l'étendue des dégradations qui avaient touché le gymnase. Le mur tagué, l'extincteur qui gisait sur le sol, les vitres brisées.
« On ne retrouvera jamais les corps de Vinca et de Clément !»
ragea Pianelli.
« C'était évident, n'est-ce pas ? Ta mère et Francis étaient bien trop intelligents et machiavéliques pour pas assurer leurs arrières. Je vais te dire un truc, l'artiste. Toi et tes copains, vous pouvez remercier vos parents de vous avoir tiré d'une merde noire. »
Sur la deuxième photo, on voyait ma mère, debout, les bras croisés, dans un tailleur strict, chignon tiré et expression impassible. Derrière elle, la silhouette massive de Francis Biancardini avec son inusable veste en cuir. Il avait pris la pose avec une truelle dans une main et un burin dans l'autre. L'évidence me sauta aux yeux. En 1997, 5 ans après les meurtres et quelques mois avant que ma mère ne démissionne de ses fonctions, elle avait décidé, avec son amant, d'évacuer les corps du mur du gymnase. Pas question pour eux de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour justifier l'intervention de Francis, ils avaient simulé ces actes de vandalisme. Les travaux de réfection s'étaient déroulés en pleine vacances de Noël, le seul moment de l'année où le lycée était presque désert. Autant dire un boulevard pour que Francis, cette fois sans l'aide d'Ahmed, déplace les corps et s'en débarrasse définitivement. Nous avions tant redouté la découverte des cadavres, alors qu'ils avaient depuis 20 ans quitté l'enceinte du lycée. Un peu sonné, je revins à l'image de Francis. Ses yeux perçants paraissaient perforer le photographe, et à travers lui, tous ceux qui se mettraient un jour en travers de sa route. Un regard d'acier, un peu bravache, qui disait « Je ne crains personne, car j'aurai toujours un coup d'avance sur le danger. » Pianelli était reparti sans demander son reste. Lentement, je remontai l'allée pour rejoindre mes amis. Il me fallut un long moment pour prendre pleinement conscience que nous ne craignions plus rien. Arrivé en haut, je relus une dernière fois l'article de journal. En regardant attentivement ma mère sur la photo, je m'aperçus qu'elle tenait un trousseau de clés entre les mains. Sans doute les clés de ce foutu gymnase. Les clés du passé. Mais celles qui m'ouvraient aussi les portes de l'avenir.